Vous écoutez, on lit pour vous.
Combat éthique, au pluriel. Un texte de Carl Rétineau-Parazelli, publié dans l'actualité édition de septembre 2025. En sous-titre, l'investissement responsable est en recul. C'est sans doute une occasion de revoir les critères qui le définissent, plaide un expert. Des nuages gris flottent au-dessus de la finance verte. Des investisseurs de partout dans le monde retirent leurs billes des fonds ESG qui, comme leur nom l'indique, tiennent compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les retraits nets ont totalisé 8,6 milliards de dollars américains au premier trimestre de 2025, du jamais vu, selon la société américaine Morningstar. Celle-ci attribue la situation notamment au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, depuis lequel la croissance économique et la défense ont pris le pas sur le climat et les avancées sociales. Ce recul ne décourage cependant pas Philippe Zaouati, Z-A-O-U-A-T-I, PDG de Mirova, une société internationale de gestion d'actifs établie à Paris, qui a fait de l'investissement durable sa spécialité. L'actualité l'a rencontré lors de son récent passage à Montréal dans le cadre du sommet de la finance durable organisé par Finance Montréal. Le record de retrait des fonds ESG atteint en début de l'année vous inquiète-t-il? Il y a effectivement un recul en ce qui concerne les investisseurs particuliers. Je pense que cela est davantage lié à une sous-performance temporaire dans cette catégorie de fonds qu'à un rejet de la pertinence des critères ESG, note de la rédaction. Le rendement médian des fonds ESG a, par exemple, été de 1,3 points de pourcentage inférieur à celui des fonds traditionnels au cours des 6 derniers mois de 2024, selon la banque d'investissement Morgan Stanley. En ce qui concerne les investisseurs institutionnels, je ne vois pas de changement majeur. Ceux qui sont convaincus de l'importance d'investir de manière durable le demeurent. Lors du sommet, vous avez affirmé qu'il ne fallait pas que la finance durable soit une finance de niche. Que voulez-vous dire? Je crois qu'il faut s'assurer de ne pas retourner au point de départ, qui était de s'adresser à un public niché. Il faut comprendre la réalité d'aujourd'hui et, au besoin, revoir nos critères de sélection. Par exemple, il me paraît plus logique de se demander à qui une entreprise vend ses armes et qui va les utiliser que d'exclure d'un fonds une entreprise du secteur de la défense parce que la défense, c'est mal. Comme gestionnaire de fonds ESG, il ne s'agit pas de renier qui on est, mais plutôt de trouver le meilleur moyen d'être attirant pour les investisseurs dans le monde actuel. Lors de nos analyses d'entreprise, il faut déterminer les vraies problématiques environnementales et sociales plutôt que de créer des cases et de s'assurer que ces entreprises y entrent. Peut-on compter sur les fonds ESG pour financer sa retraite? Tout dépend bien sûr des produits d'investissement qu'on achète et de l'horizon de placement. Mais il n'y a aucune raison de penser que ce type d'investissement sera défavorable à long terme. Ceux qui affirment que des fonds durables seront moins performants que des fonds traditionnels dans l'avenir n'en savent strictement rien. L'investissement durable n'est pas de la philanthropie. Il consiste à faire confiance à des gestionnaires qui ont les critères ESG en tête et qui n'ont qu'une seule obsession, trouver les bons placements. Les énergies renouvelables, c'est rentable. Les investissements santé en éducation, c'est rentable. Je crois donc qu'il est possible de construire des portefeuilles d'investissement ESG à la fois très diversifiés et très performants. C'était « Combat éthique » au pluriel. Un texte de Carl Rétineau-Parazelli, texte publié dans l'actualité, édition de septembre 2025.
Projet Village de la dignité pour toutes. Un texte de Rosemée Autonne Témorin paru le 10 septembre 2025 dans La Presse. On s'assoit à la jonction de la rue des Possibles et de la place des Petits Bonheurs. Ce sont des mères qui ont choisi le nom de ces espaces, m'apprend Liliane. Un ballon éclate, on sursaute. Il vente fort, mais l'orage est loin encore. C'est jour de fête. Mère avec pouvoir, un organisme du centre-sud de Montréal qui vient en aide à des femmes à la tête de familles monoparentales de retour aux études ou à la recherche d'un emploi, ouvre officiellement sa nouvelle cour. L'espace a été restauré grâce à des initiatives qui méritent de faire des petits. C'est pour ça que je suis ici. Liliane Lapointe, coordonnatrice des projets et relations partenaires, est assise devant moi. Je regarde son ventre rond. Ça me touche de voir une mère s'impliquer autant pour des consoeurs qui ne l'ont pas eu facile. Plusieurs des femmes qui atterrissent dans l'un des 30 logements subventionnés de l'endroit ont connu les centres jeunesse ou d'autres défis qui ont laissé des traces. Et jusqu'à tout récemment, leur cours reflétait un peu l'adversité à laquelle elles avaient fait face. Disons qu'elles manquaient d'amour. Citation. « Tu veux rentrer chez toi et te sentir bien ?» dit Madame Lapointe. « On peut croire que comme ce sont des personnes vulnérables, ce n'est pas une priorité pour elles. Mais elles ont aussi droit à la dignité et à des espaces qui ont de l'allure. » Fin de citation. On sera tous d'accord, mais rares sont les organismes communautaires qui peuvent tout bonnement entreprendre de gros travaux. C'est ici que Mère avec pouvoir a eu de la chance. L'équipe a gagné un appel à projet lancé par Architecture sans frontières qui souhaitait réaménager les espaces d'un organisme communautaire. 6 architectes du milieu privé offriraient donc gracieusement leur temps, des esquisses au chantier en passant par les plans. L'équipe d'Architecture sans frontières a aussi fait la médiation entre les architectes et les résidentes. Celles-ci ont pu faire part de leurs préférences aux experts. Cette implication était taillée sur mesure pour le programme de Mère avec pouvoir, me fait remarquer Valérie Larouche, la directrice générale de l'organisme qui se joint tout juste à Liliane et à moi. Citation. Ici, c'est un espace socio-professionnel. Ça fait partie du processus d'apprendre à donner son opinion. Si je peux dire ce que je préfère à un architecte, peut-être que je pourrais dire à ma boss que telle ou telle chose ne fonctionne pas. Fin de citation. Les maires ont aussi été consultés pour le choix des plantes utilisées pour verdir la cour grâce à un partenariat avec la Société éco-citoyenne de Montréal. Puis, elles ont été au cœur de la réalisation de 2 œuvres murales. De l'art ici? Liliane Lapointe en est fière. Citation. Les femmes sont souvent en mode survie. Elles arrivent, se déposent et retournent aux études en prenant soin de leurs enfants. Puis on sait à quel point embellir un environnement peut apporter du bien-être. Fin de citation. Dans cette grande entreprise d'entraide, c'est cette fois l'organisme de bienfaisance MU qui a répondu à l'appel. Une première peinture a été réalisée par Caitlin McDonagh. L'artiste a demandé au maire de lui raconter ce qu'elle vivait ici. Elles ont parlé d'un tremplin, de la possibilité de grandir comme une fleur, de se prendre en main et de transmettre ça aux enfants. Tout ça est désormais représenté à l'entrée de leur cour. L'œuvre à l'arrière, elle, incarne un renouveau. Il s'agissait jadis d'un espace à l'abandon couvert de détritus. L'équipe de Mère avec pouvoir l'a dégagé pour que l'artiste Béatrice Bloomfield et les éducatrices de MU y créent la murale des familles. Celles-ci ont orchestré un atelier avec les résidentes et leurs enfants. Une mère a dessiné la grande ours pour montrer que l'organisme était pour elle un guide. Plusieurs femmes ont parlé de sororité, de chemin tortueux, de diplôme. On a également mentionné le chat de Samantha, une maman du groupe. Les éducatrices de MU ont tracé une œuvre sur le mur à la manière d'une peinture à numéros. Ce sont les résidentes, les enfants et les employés de Mère avec pouvoir qui l'ont peinte. Alors, aujourd'hui, elle ressemble à quoi cette cour? À un lieu où la vie se passe, résume Liliane Lapointe. Il y a 5 tables à pique-nique, un grand module de jeu, des stationnements pour poussettes, un mur à vélo et des fleurs. Citation. On veut que les mères aient le goût d'y être, dit Valérie Larouche. Peu de femmes qui vivent ici ont une famille avec un chalet. Si elles ont des vacances, ça se passe à la maison. L'idée, c'était d'agrandir leur 4,5 avec un espace extérieur. Fin de citation. Et cette collaboration des milieux communautaires et privés n'améliorera pas que le quotidien de 30 mères qui élèvent seules leurs enfants, mais aussi celui de nombreuses familles des environs. C'est que la cour est également accessible pour les 80 enfants qui fréquentent le CPE du Carrefour. Plusieurs d'entre eux n'ont pas le luxe d'avoir un terrain à la maison. Cet espace, c'est donc un parc pour les rendre heureux. Shirley Durand, 25 ans, voit déjà les bienfaits de ce réaménagement. Elle entame tout juste sa 5e et dernière année au sein du programme de Mères avec pouvoir et reconnaît qu'elle n'était pas dans un très bon état à son arrivée. L'accompagnement auquel elle a eu droit lui a redonné un élan. Elle a terminé son cours de préposé aux bénéficiaires. Elle étudie maintenant pour être infirmière auxiliaire et elle entend devenir infirmière clinicienne. Je n'aurais jamais rêvé de faire ça avant. Il y a quelques jours, elle a organisé une fête pour sa fille dans la cour. Les enfants étaient surexcités. Citation. On est démunis, mais ça ne paraît pas, dit Shirley Durand, 25 ans. Les choses auxquelles on a pensé, je sais que les mamans qui viendront dans le futur vont les aimer aussi. Parce qu'on a fait ça de maman à maman. On pense toujours à celles qui s'en viennent. Fin de citation. Cette cour, c'est une histoire de courte échelle entre organismes, entre bénévoles, entre mères. Et ça, c'est effectivement une raison de fêter. L'orage attendra. Il y a des cœurs immenses à célébrer. C'était Projet Village de la dignité pour toutes. Un texte de Rose-Aimée Autonneté-Morin, paru le 10 septembre 2025 dans La Presse.
J.I.M. Où les artistes vont pour s'entraîner. Un texte d'Émile Côté, paru le 5 novembre 2025 dans La Presse. Deux espions au parc. Deux ex sur un radeau. Deux bénévoles dans un festival de films d'horreur. Ou encore deux chambreurs dans une auberge de jeunesse. Pour votre prochain 5 à 7, pourquoi ne pas assister à la soirée Jam Théâtre du J.I.M. Jouer ici, maintenant. Un centre d'entraînement pour les artistes en art vivant. Les athlètes ont des centres de conditionnement physique, les artistes visuels, leur atelier, et les musiciens, un local de répétition. Mais si un acteur veut s'exercer, il y a peu d'occasions de jeu en dehors des productions et des auditions, fait valoir Frédéric Barbucci, comédien, improvisateur et fondateur du J.I.M. Un musicien joue tout le temps, pas un comédien, illustre-t-il. Qui peut jouer au J.I.M.? Des artistes professionnels ou amateurs, avec un minimum de 2 ans d'expérience, et comme c'est le cas pour l'entraînement des muscles des biceps, ont mis sur la régularité et la fréquence des séquences. Il y a des jours où c'est normal de se trouver moyen. Il faut rejeter le syndrome de l'imposteur, peut-on aussi lire sur la liste de conseils affichés au mur. Au J.I.M., nous sommes des pairs. Comme dans un gym, on peut opter pour un abonnement ou une formule à la carte. Chaque membre a ses raisons de s'y entraîner, se détendre, se donner de la confiance pour une audition ou tout simplement pour le plaisir de jouer. En plus des ateliers destinés aux membres, le J.I.M. présente chaque mois différents événements ouverts au public. Soirée de scène ouverte, karaoké où les participants pigent un personnage avant de chanter, séance de jeux et de dessins, poésie décomplexée. S'affranchir du résultat. nous avons pris part à une séance appelée « Impact de l'espace sur le jeu ». En introduction, les participants étaient invités à se présenter, évaluer leur état sur une note de 10, indiquer quel est leur légume préféré, oui, et expliquer ce qu'ils venaient chercher cet après-midi-là. Denis Lehoux-Fauché a confié manquer d'énergie. « L'ascenseur remonte souvent dans ma tête ces temps-ci, et je viens chercher une aisance et apprendre à couper les câbles pour qu'ils restent en bas. » Frédéric Barbucci a invité le groupe à s'ancrer dans le corps plutôt que dans la tête et dans le regard de l'autre. « Le but, dit-il, est de se laisser porter dans le jeu sans trop penser aux résultats. Après tout, il n'y a pas de public à impressionner ou de match à gagner comme en improvisation. On se donne le droit de juste être là. » Daphné Bérubé, qui a incarné plusieurs rôles dans la séance, soit une amie imaginaire, une sirène et une femme enceinte, nous dit venir cultiver au JIM le retour au moment présent. Pas chercher la bonne idée, mais faire confiance au processus, car il n'y a pas de validation par le public, a pour sa part exposé Denis Lehoux-Fauché. Le JIM lui permet de dérouiller le muscle du jeu, ajoute-t-il. « Je ne pourrais plus m'en passer », a lancé Marilyn Verrette. L'actrice et marionnettiste était la doyenne du groupe, ce qui ne l'a pas empêchée de jouer à la fois une mère et un enfant, au théâtre. « Nous avons besoin des autres », fait-elle valoir. Il y avait deux acteurs de Bordeaux en séjour à Montréal, Adrien Mulattieri et Clément Procureur. En se frottant de nouveaux esprits, on défait des automatismes, a souligné le premier, ajoutant que c'est précieux d'avoir un lieu neutre d'exploration. C'est un moyen de venir ici, mais c'est aussi une fin en soi. Il n'y a rien que j'aime mieux que de jouer, a lancé pour sa part Joël Marchand. Ouvert au public. En plus d'avoir assisté à une séance d'entraînement en après-midi, nous avons vu une présentation devant public le vendredi soir appelée « Tournée générale ». Le concept, dans une formule de 5 à 7, des membres du JIM, dont le nom est tiré au sort, jouent des scènes avec une personne de leur choix. C'était JIM, où les artistes vont pour s'entraîner. Un texte d'Émilie Côté, paru le 5 novembre 2025 dans la presse.
Dans les pires cas, on a rapporté des gestes de violence physique. La jalousie sur les réseaux sociaux rend fou, selon une étude. Un texte de Mathieu Robert Sauvé, publié le 8 décembre 2025 dans le Journal de Montréal. Les jeunes n'ont jamais été aussi jaloux, car les réseaux sociaux empirent les attitudes de certaines personnes en les rendant encore plus contrôlantes, démontre une étude en psychologie. Dans les pires cas, on a rapporté des gestes de violence physique commis par des conjoints que les réseaux sociaux avaient poussés à l'extrême, explique Sarafina Metellus. La chercheuse met fin à son doctorat sur la jalousie à l'ère de TikTok et Instagram au département de psychologie de l'Université de Montréal. Paru dans la revue Journal of Marital and Family Therapy, son dernier article mentionne que les conjoints anxieux vont plus souvent vérifier les mentions « j'aime »,« like » de la personne aimée et scrutent la liste de ses abonnés ainsi que les messages qui lui sont adressés. Elle a observé que le besoin de contrôle peut aller jusqu'à la surveillance électronique, voire au harcèlement psychologique. Nous avons constaté que cette tendance à la surveillance se traduit par une diminution de la satisfaction conjugale et à une augmentation des conflits après un an, ajoute-t-elle. Pour mieux intervenir. Nous soupçonnions cette réalité, mais elle n'avait jamais été démontrée scientifiquement. Commente sa directrice de thèse, Marie-Ève Daspe. Elle a travaillé à la réalisation de cette grande enquête menée auprès de 322 jeunes de 18 à 29 ans, suivis sur 2 ans. C'est à partir de cette base de données que Mme Metellus a tiré ses observations. Il ne faut pas conclure que les réseaux sociaux sont mauvais pour les couples, mais je crois que les thérapeutes doivent être conscients des pièges pour mieux intervenir. Commente en entrevue au journal la chercheuse liée, comme la professeure Daspe, au Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Parmi les bons côtés des réseaux sociaux, elle mentionne que le fait d'afficher le nom de son ou sa partenaire de vie sur le profil est une façon d'officialiser la relation. De plus, ce mode de communication permet aux partenaires de rester connectés, même lorsqu'ils sont séparés géographiquement, et favorise le partage quotidien de photos et de messages, ce qui entretient la proximité émotionnelle. Du quart au tiers. Les réseaux sociaux sont indissociables de la vie de couple des jeunes et la jalousie serait un des sentiments les plus souvent exacerbés par l'aspect public des échanges. Une étude du Centre de recherche Pew aux États-Unis démontrait en 2020 que de près du quart des utilisateurs de réseaux sociaux avaient ressenti de la jalousie ou des doutes quant à leur relation en raison de la façon dont leur partenaire actuel interagit avec les autres. Cette proportion passait à 34 % chez les jeunes de 18 à 29 ans. C'était, dans les pires cas, on a rapporté des gestes de violence physique. La jalousie sur les réseaux sociaux rend fou, selon une étude. Un texte de Mathieu Robert, Sauvé, publié le 8 décembre 2025 dans Le Journal de Montréal.
Explosion des demandes d'aide chez tel jeune. Un texte de Jessica Nadeau paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir. En 2024, à pareille date, tel jeune sonnait l'alarme sur l'augmentation marquée de la détresse chez les jeunes. En 2025, c'est encore pire, se désespère l'organisme qui parle d'une explosion des demandes d'aide de 20 % en lien notamment avec une augmentation de l'intimidation à l'école. Oui, il y a une augmentation de la demande d'aide, mais il y a aussi une augmentation de la détresse, et c'est ça qui est préoccupant, affirme la directrice générale de tel jeune, Annie Papagiorgiou, en entrevue au Devoir. Les demandes d'aide sont de plus en plus complexes, révélant une détresse multifactorielle, explique Mme Papagiorgiou. Les problèmes liés à la santé mentale, dépression, stress, anxiété de performance, faible estime de soi, atteignent aujourd'hui un niveau sans précédent, représentant 50 % des quelque 50 000 demandes reçues, contre 40 % en 2024. La détresse des jeunes est telle qu'une intervention sur 5 nécessite désormais une évaluation du risque suicidaire. Cette détresse accrue se manifeste aussi chez les parents qui se sentent démunis et impuissants, constate l'organisme qui a reçu 10 000 demandes d'aide à la ligne tel jeune parent. Intimidation à l'école. La détérioration de l'état psychologique des jeunes est liée notamment à l'augmentation de la violence et de l'intimidation à l'école, constate la directrice générale de tels jeunes. La violence fait de plus en plus partie des thèmes abordés par les adolescents qui nous contactent, mais l'intimidation à l'école est plus grande. On a vu une grande augmentation des cas. Les jeunes se font intimider par leurs pairs à l'école en raison d'une différence de genre, d'une neurodivergence ou de leur apparence. Les jeunes sont touchés dans leur intégrité, dans ce qu'ils sont, dans leur besoin de validation, déplore Madame Papa Giorgio. Ce n'est pas d'hier que l'on parle d'intimidation dans les écoles, mais, aujourd'hui, le problème prend de nouvelles proportions, selon elle. Ça fait longtemps qu'on le voit, qu'on l'entend, mais là, ce que les jeunes nous rapportent, c'est que bien souvent, ils ne se sentent plus en sécurité dans leur milieu quand ils sont intimidés. Donc, c'est ce qui amène une plus grande détresse. Cette détresse se traduit notamment par une grande anxiété liée à la rentrée scolaire qui s'est manifestée beaucoup plus tôt cette année, constate la directrice générale. Habituellement, c'est tranquille l'été. L'effet du retour à l'école se fait sentir plus au mois d'août. Mais en 2025, dès juillet, on a eu vraiment beaucoup de demandes de contact. Dans un mémoire présenté à Québec en 2024 dans le cadre des consultations sur l'élaboration du plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation, tel jeune indiquait déjà que le nombre de demandes d'aide pour des raisons liées à l'intimidation à l'école était en forte croissance. L'organisme identifiait plusieurs freins qui empêchent les jeunes de dénoncer ces situations, et ce, malgré l'obligation de toutes les écoles d'avoir un plan de lutte contre la violence et l'intimidation. Les jeunes nomment qu'il n'est pas simple d'identifier et de dénoncer l'intimidation, écrivait l'organisme. Ils mentionnent que les mécanismes d'intervention ne sont pas toujours efficients ou confidentiels, ce qui ne permet pas de mettre les jeunes en confiance. C'était « Explosion des demandes d'aide chez tel jeune », un texte de Jessica Nadeau paru le 3 décembre 2025 dans Le Devoir.